Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Apprendre à discerner les signes des temps est l'un des préceptes évangéliques dont Mgr Claude d'Agens de l'Académie française, évêque d'Angoulême, ne cesse de rappeler l'importance. Mais comment faire œuvre de discernement sous la pression médiatique qui nous assaille d'informations, de guerres, de catastrophes, de maladies, de tant et tant de raisons de désespérer? Comment discerner les signes de l'espérance? Comment ne pas désespérer du genre humain? C'est la réflexion que nous lui avons demandé de partager avec nous, lui qui garde chevillé à l'âme cette espérance dont il admet pourtant qu'elle est bien mise à l'épreuve ces temps-ci. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints dans le studio de Canal Academy. C'est presque une tradition maintenant. Au moment de Pâques, nous avons le bonheur de vous recevoir. Vous venez de publier deux ouvrages. Le premier, Catholique en France, réveillons-nous, point d'exclamation, c'est incisif comme ton.
C'est un appel.
C'est un appel, ça paraît chez Bayard. Et puis le second, également chez Bayard, qui lui est un beaucoup plus petit ouvrage, qui s'intitule « Catholique est présent dans la société française, foi en Dieu et démocratie », avec une préface de Roger Faurou. Ces deux livres sont différents dans leur forme. L'un est un recueil d'articles et de textes et l'autre est un appel d'une cinquantaine de pages seulement, bref mais incisif. Dans ces deux ouvrages, vous constatez que nous traversons des temps d'incertitude, de peur, d'imprévisibilité. Mais dans le fond, quel est le message essentiel que vous souhaitez faire entendre?
Pour espérer, il faut résister. Il faut résister à l'air ambiant qui précisément ne porte pas à l'espérance. Porte au mieux au désenchantement. Et au pire, à la peur et à la désespérance. Et puis, il faut être réaliste, nous vivons sous le signe et sous l'emprise de l'immédiat. Surtout quand l'immédiat se présente sous la forme de la violence brutale. Je pense à ce qu'on appelle les événements de Montauban et de Toulouse, que l'on ne peut pas oublier. Et l'immédiat, surtout quand il est brutal, violent, nous met dans un état de choc que l'on a du mal à surmonter. Et puis, il faut bien dire que l'air du temps et le sens même du temps de l'histoire que nous vivons depuis un certain nombre d'années ne semblent plus porteurs de promesses. Quelle différence pour nous qui avons connu les années de l'après-guerre, les années du Concile Vatican II, 1962, si l'on peut prendre cette référence, les débuts de la Ve République, l'avenir semblait ouvert. Sous des formes multiples, soit du côté des révolutions politiques et sociales, voyez Cuba, Fidel Castro est là depuis 1960 et notre pape Benoît XVI vient de le rencontrer, soit sous la forme du développement économique que l'on promettait à tous les peuples du monde avec ce slogan qui avait cours et qui était justifié « Demain sera meilleur qu'aujourd'hui ». Or, en ce début du XXIe siècle, ce n'est pas du tout le slogan que l'on peut entendre ou faire admettre, c'est que demain sera probablement plus difficile qu'aujourd'hui. L'espérance est à l'épreuve.
Mais Monseigneur, les temps difficiles, l'espérance mise à l'épreuve, est-ce particulier à notre siècle? Parce que ça a toujours été comme ça. Les premiers temps du christianisme n'étaient pas meilleurs avec la peur de l'esclavage, de la mise à mort, des maladies, les assurances qui étaient beaucoup moins grandes qu'aujourd'hui. En quoi l'espérance est-elle vraiment menacée?
Il est vrai que de tout temps, l'espérance a été ou est difficile. Et pourtant, il y a aujourd'hui plus que cela. Il y a eu d'abord, depuis le XVIIIe siècle, les idéologies du progrès, qui semblaient infaillibles. Demain, encore une fois, l'histoire est un mouvement ininterrompu qui va toujours vers un plus de liberté, de justice, de prospérité et de paix. Or, les événements du monde, surtout s'ils sont imprévisibles, démentent cela. Je pense en particulier à ce qui a ouvert le début du XXIe siècle, le terrible attentat de Manhattan, de New York, les Twin Towers, et le fait que depuis lors, la menace terroriste, sous la forme d'un islam que l'on imagine toujours menaçant, ou dangereux, ou fanatique, est présente. Et puis, il faut dire que dans les premiers temps de l'ère chrétienne, il y avait sans aucun doute le sens immédiat de la vie éternelle. C'est-à-dire que demain, c'est aussi, si je peux dire, au-delà de ce monde. C'est-à-dire la présence de Dieu qui va nous transformer. Or, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui, c'est un fait, nous n'allons pas nous lamenter, mais dans un monde qui se passe de Dieu. Autrement dit, l'espérance est une nouveauté. Et nous sommes appelés comme chrétiens à aller puiser à la source de cette espérance. Et la source de cette espérance, c'est ce que nous appelons le mystère pascal. Cet homme nommé Jésus a vaincu la mort, il a subi la mort, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Je pense à cette expression extraordinaire, magnifique, de mon confrère et ami, le philosophe Michel Serres, qui a écrit quelque part « Les religions païennes sont fascinées par les cadavres, et on pourrait dire, et par la mort, par les squelettes. Le christianisme commence par un tombeau vide, c'est-à-dire par l'affirmation et la révélation de la victoire sur la mort. Les forces de mort, de violence et de peur sont vaincues en Jésus, puisqu'il est ressuscité, et que tout le corps de notre humanité, personnellement, mais en même temps d'une manière collective et d'une certaine manière même sociale, sont appelés à participer à ce relèvement, dont le Christ est le premier.
Dans l'histoire du christianisme, quel est l'auteur qui a le plus parlé de l'espérance? Est-ce saint Paul, est-ce saint Augustin? Vous allez me répondre les deux, bien sûr. Mais pour vous, personnellement, vous allez puiser à quelle source?
Et bien d'autres, on pourrait dire d'abord saint Irénée, avec sa grande affirmation « En donnant le Christ, Dieu donne toute nouveauté. » Et toute nouveauté est une source, et nous sommes appelés à aller à la source. Saint Paul, avec en même temps, chez saint Paul, un réalisme extraordinaire, c'est pas l'espérance pour l'espérance, c'est la création. Gémit, lettre aux Romains, aux premiers chrétiens de Rome, chapitre 8, la création gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas la seule, nous-mêmes, nous gémissons dans nos corps en attendant notre délivrance. Et il ajoute cette affirmation qui me semble la plus belle, la plus forte définition de l'espérance. Espérer, c'est attendre ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on voit, on ne peut pas l'espérer, puisque c'est là. Espérer, c'est attendre ce que l'on ne voit pas, qui demeure invisible, mais qui sera donné par Dieu, comme pour une femme qui va enfanter. La création gémit dans les douleurs de l'enfantement, avec la présence de l'enfant qui est là, invisible, porté dans le corps, dans le ventre de cette femme qui devient sa mère et qui en même temps sera mise au monde. Et d'une certaine manière, il y a dans l'histoire du monde ce processus de mise au monde ininterrompue d'une création nouvelle, enfin libérée de la violence, du péché, de la mort, et dont nous apercevons les signes. Il suffit de voir, je pense, à des personnes de mon diocèse, et en particulier souvent des personnes âgées dont les visages sont burinés, marqués par les épreuves et les blessures de la vie. Et en même temps, il y a souvent dans les regards une espèce de lumière qui révèle une victoire sur toutes les forces de mort. Et même si les personnes n'ont pas des mots pour le dire, elles vivent de la puissance de résurrection.
Je voudrais aussi, Mgr d'Agens, que vous nous parliez plus précisément de cette perte de l'idéologie, vous l'avez dit, d'un sens de l'histoire. Mais justement, est-ce que l'espérance chrétienne, ça n'est pas aussi une idéologie d'une histoire qui va arriver, d'une histoire future?
Il y a deux éléments dans le sens chrétien du temps et de l'histoire. Beaucoup de théologiens, protestants, catholiques et orthodoxes, ont insisté sur cet aspect. Le temps païen est globalement un temps cyclique, c'est-à-dire le temps des saisons, le temps des recommencements, ce qui germe, ce qui meurt, ce qui disparaît, ce qui va renaître du printemps à l'hiver en passant par les autres saisons. Le temps juif, à partir d'Abraham, est un temps que l'on dit linéaire, c'est-à-dire un temps ouvert à l'avenir, parce que cet homme nommé Abraham a été appelé par Dieu à ouvrir un chemin, à se mettre en route, à devenir un pèlerin. Autrement dit, l'histoire est sous le signe du pèlerinage. Elle est une marche ouverte vers l'avenir. Et en même temps, et c'est là le paradoxe chrétien, au moment même où nous sommes, dans l'aujourd'hui de Dieu, selon la formule du prieur de Thésée, le frère Roger, dans l'aujourd'hui de Dieu, l'ouverture à Dieu est possible. Autrement dit, dans le temps présent, il y a une ouverture possible au monde de Dieu. Et mon maître que vous avez connu, Henri-René Maroux, cite dans sa théologie de l'histoire cette expression d'un grand philosophe de l'histoire allemand du XVIIIe siècle, von Ranke, je crois bien Léopold von Ranke, il le dit en allemand, « Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott. » Toute époque de l'histoire est fondamentalement ouverte à Dieu. Le temps que nous vivons, le temps d'aujourd'hui, même si nous mourons dans quelques instants, ou demain, ou dans des mois, ou dans des années, aujourd'hui même, il est possible de s'ouvrir à la lumière de Dieu, dans le Christ ressuscité. Et je vous assure que je vais baptiser des adultes pendant la veillée pascale, ces hommes et ces femmes qui ont une trentaine ou une quarantaine d'années, comprennent spontanément que le baptême et l'appartenance au corps du Christ, la vie chrétienne, le devenir chrétien, c'est une entrée dans une vie nouvelle qui ne s'achève pas, c'est-à-dire qui s'ouvre à l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu est présente en ce moment même, aujourd'hui, maintenant. Hic et nunc.
C'est à la fois la foi et l'espérance, donc les deux vont ensemble.
Les deux sont inséparables.
Inséparables,
les deux sont inséparables,
sûr.
Même si nous avons sans doute beaucoup trop fait peu de place à l'espérance. Le catholicisme a été déterminé par les catégories de l'histoire qui se référaient soit à l'avenir, soit au passé, mais qui bouchent le chemin de l'éternité. Et nous avons besoin de revaloriser, comme Peggy l'a fait, la petite fille espérance qui marche à côté des pèlerins fatigués que nous sommes quelquefois.
Avec Mgr Claude Dagens, qui nous fait partager sa réflexion sur l'espérance, nous allons écouter, à sa demande, quelques mesures de la Symphonie du Nouveau Monde. Retour dans notre studio en compagnie de Mgr Claude Dagens de l'Académie française, évêque d'Angoulême. Alors vous avez précisé, Mgr Dagens, que espérer, c'est croire en ce que l'on ne voit pas. Mais justement, dans le monde tel qu'on l'observe aujourd'hui, est-ce qu'il y a des germes d'espérance qu'on discerne mal, qu'on voit mal, mais qui existent tout de même ?
Nous voyons ce qui disparaît et ce qui meurt. Nous sommes toujours fascinés par la mort, surtout quand elle est soit surexposée, soit refoulée. Elle est les deux. Elle est surexposée lorsqu'elle explose et elle est refoulée dans les mémoires profondes, dans la mémoire du mal que chacun de nous peut porter en soi. Mais ce travail d'apprentissage de l'espérance est d'une actualité permanente. Et en même temps, nous sommes fascinés par ce qui disparaît. Nous avons beaucoup de mal à voir ce qui germe. Prenons par exemple les pays arabes. Depuis la fin de l'année 2010, ces révolutions, ces soulèvements populaires pour l'affirmation et la défense de la liberté et de la dignité. Apparemment, on peut dire aujourd'hui, ils traversent des phases difficiles, d'affrontements, de tendances fondamentalistes qui peuvent inquiéter. Et pourtant, les revendications de dignité et de liberté sont des germes qui ne peuvent pas disparaître. Je veux dire qu'il y a dans l'histoire des peuples les éléments quantitatifs, liés à la crise économique en particulier, mais il y a aussi des éléments non quantitatifs, qualitatifs, et en particulier ceux quand des consciences d'hommes et de femmes se réveillent pour ouvrir des chemins nouveaux, à l'intérieur même de ce qui résiste ou de ce qui freine l'espérance.
Justement, vous insistez dans vos livres sur cette emprise du quantitatif qui ne suffit absolument pas et qui gêne l'espérance, justement.
Nous sommes sous le règne de ce quantitatif, surtout lorsque les yeux restent rivés au cours des bourses ou aux résultats des marchés, et nous avons besoin, à l'intérieur de ces logiques qui se disent rationnelles, mais qui deviennent quelquefois folles, irrationnelles, nous avons besoin d'inscrire des logiques raisonnables. La logique de l'espérance est une logique raisonnable. Et non
pas.
Fait
appel à la raison.
D'une certaine manière, elle fait appel à la raison en appelant la raison à voir au-delà de l'immédiat, au-delà des apparences immédiates, au-delà des chiffres immédiats. Et pour parler de l'Église catholique en France, sans aucun doute, il y a affaiblissement des institutions catholiques, baisse de la pratique religieuse, diminution et vieillissement des prêtres. Mais en même temps, il y a, et je le vois dans mon diocèse, je l'ai vu à Lourdes ces jours-ci, alors que nous étions 2500 personnes rassemblées pour célébrer le 50e anniversaire du Concile Vatican II, l'Église réelle, confiante, heureuse, eh bien, il y a cette espèce de recomposition du tissu de la foi chrétienne, de la charité et de l'espérance qui fait partie aussi de la réalité, mais nous avons beaucoup de mal à le voir. Ce qui va mal, on le voit. Ce qui germe et qui est donné par Dieu, il faut du temps pour le discerner.
Et effectivement, peut-être que vous pouvez, l'Église catholique et certains auteurs peuvent nous aider à discerner justement ce qui germe et qui porte espérance. Quels sont les auteurs qui vous donneraient cette capacité?
Je vais dire immédiatement deux noms. Le premier est mort il y a un certain nombre d'années, la seconde est vivante et elle habite Angoulême. Le premier, c'est Bernanos. Espérer contre toute espérance.
Contre le mal aussi.
Cet homme a l'expérience du mal, du prince, du mensonge, la rencontre avec Satan, dans « Sous le soleil de Satan », le journal d'un curé de campagne, Monsieur Wynne. Satan comme le prince du mensonge, extrêmement intelligent, mais avec la pire des tentations, qui est la tentation de la désespérance, et qui peut aller jusqu'à la tentation de l'autodestruction, c'est-à-dire du suicide. Bernanos est un combattant de l'espérance, y compris dans le domaine politique. J'ai acheté l'autre jour une édition de ses essais, un bouquiniste tout près d'ici, et je lis ses essais de Bernanos. Au lendemain de la guerre, il demeurait inquiet à cause d'une espèce de mécanisation de l'univers et de la culture qui empêchait la conscience humaine, la liberté humaine, le cœur humain de déployer ce qui est en son cœur précisément, c'est-à-dire l'espérance. Et puis, deuxième auteur, c'est cette femme qui s'appelle Sylvie Germain, qui a fait l'expérience, elle aussi, à sa manière, de la désespérance pour de multiples raisons, qui a vécu également en Europe de l'Est, en Tchécoslovaquie, à Prague, pendant les années où la dictature communiste s'y affirmait fortement. Et ses livres, je pense en particulier, il a eu un prix il y a quelques années, Magnus, qui est l'histoire d'un enfant qui a connu les camps de la mort, les camps de déportation et de concentration, les horreurs, et puis qui traverse la vie avec une force cachée, mais victorieuse du mal. Sylvie Germain, qui écrit souvent des livres, Tobie des Marais, qui est une histoire magnifique, qui raconte l'histoire biblique de Tobie, mais à travers des paysages de la région charentaise d'ailleurs. Et il y a chez Sylvie Germain à la fois une fascination pour la mort, une expérience très vive de la désespérance au plus profond, et en même temps, une espèce de lumière de résurrection. Et puis, un troisième auteur, et j'y pense immédiatement, Soljenitsyn. Il y a dans le pavillon des cancéreux le dernier chapitre. Lorsque Kostogotov sort de l'hôpital, quelque part du côté du Kazakhstan, je crois, il croit qu'il est guéri alors qu'il va mourir. Et les médecins l'ont laissé partir parce qu'il est condamné, il ne pourra vivre que quelques jours, même quelques heures, il va mourir dans le train qu'il prend. Après avoir parcouru le jardin public de la ville et contempler l'abricotier en fleurs. Et il y a, au début de ce chapitre, je n'ose pas dire que c'est une citation, mais Soljenitsyn raconte cette espèce de sortie de l'hôpital de Kostogotov comme une participation, il écrit ainsi, « le premier jour du monde ». Et On n'oublie pas, même s'il n'y insiste pas, que c'est le jour de Pâques, ou c'est la veille de Pâques. Évidemment, dans la grande tradition orthodoxe, que notre amie Hélène Carrère-Dancos connaît bien, eh bien, la tradition du réveil avec toutes les liturgies pascales, sans oublier les œufs de Pâques, la renaissance, la rénovation, la résurrection, font partie du cœur de la religion orthodoxe et de la religion chrétienne. Mais nous, quelquefois, nous avons besoin de nous ressourcer au message de l'Évangile. Marie-Madeleine au tombeau, elle vient embaumer le corps de cet homme dont elle désespère, elle pense qu'il est mort, elle l'a vu violemment mourir sur la croix, et puis des anges vont lui dire « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, il n'est pas ici, il est ressuscité, il vit, comme Kostoglotov, qui va mourir, mais on sait qu'il est déjà ressuscité avant de mourir. » Le dernier chapitre du Pavillon des cancéreux de Soljenitsyn, merveilleux.
Merci, Monseigneur Dagens, de nous faire partager donc ces auteurs que vous aimez, qui alimentent aussi votre espérance. Par contre, vous avez dit qu'on avait l'idéologie du progrès, elle est complètement tombée. Est-ce qu'on peut quand même garder espoir que l'être humain va finir par s'améliorer pour pouvoir vivre ensemble de manière harmonieuse? Car ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui.
Je serai fidèle à saint Augustin, que vous avez cité tout à l'heure. L'être humain est un mélange. Augustin dit, enfin il parle de l'Église, mais on peut dire aussi que ça vaut pour l'humanité tout entière. L'humanité, l'histoire, le monde, l'Église sont des, il dit en latin, permixtio, il faudrait dire permixtione, c'est-à-dire des mélanges inextricables de bons grains et d'ivraies, de bien et de mal, de violence et de réconciliation, de beauté et de laideur. Nous vivons sous le règne du mélange. Alors, il faut pouvoir à la fois reconnaître le mélange qui est en nous et puis faire l'option pour que Dieu développe en nous les germes de bonté, de beauté, de réconciliation, d'attention, de respect, de ce pressentiment que le mal n'aura pas le dernier mot. Je suis frappé que dans la formulation des nouvelles, dans les processus médiatiques, il y a toujours comme à l'horizon « mais le mal risque d'avoir le dernier mot ». Vous voyez bien, le mal aura le dernier mot. Il n'y a que le mal et on cherche des coupables. Alors que l'originalité chrétienne, c'est de pouvoir affirmer et en vivre, affirmer que le mal n'a pas le dernier mot. Christ est ressuscité.
C'est sur ce mot, on ne peut pas en trouver de meilleur pour vous, que nous allons nous quitter. Je vous remercie infiniment de cet entretien. Je rappellerai que sur Canal Académie, nous avons avec vous un entretien au sujet du catéchuménat, justement, du baptême, de ces adultes qui demandent le baptême et qui font tout un cheminement. Vous nous avez expliqué lequel dans cette émission. Et nous avons aussi une autre émission avec vous sur la notion du pardon, qui aussi peut ouvrir un espoir, justement, et une espérance. Quant à Sylvie Germain, que vous avez citée, elle nous a fait le bonheur de venir à Canal Académie, donc nous avons aussi une interview à proposer sur Canal Académie de Sylvie Germain. Voilà, j'en profite pour vous le dire. Vous me permettrez de rappeler les deux ouvrages que vous venez de publier. Donc, Monseigneur Claude Dagens de l'Académie française, catholique et présent dans la société française, foi en Dieu et démocratie. Ça, c'est un appel pour que les chrétiens s'engagent en politique,
n'est-ce pas ? C'est un appel au discernement avec deux aspects. La présence des catholiques dans la société française, qui est une présence beaucoup plus diverse qu'on imagine, et de terrain, de manière, disons, quotidienne et ordinaire, en forme de solidarité, d'accompagnement, de présence. Et puis, une petite analyse sur les dérives de la raison économique quand elle devient seulement calculatrice. Et d'autre part, le soupçon porté sur la raison politique que nous devons revaloriser. Et puis une finale avec une petite méditation sur la fameuse lettre à Diognète, cet écrit du 2e ou 3e siècle, dont l'auteur, un chrétien inconnu, montre que les chrétiens sont des citoyens comme les autres et qu'en même temps, ils appartiennent à la cité de Dieu, au royaume de Dieu. Et donc, à l'intérieur des complexités du monde et de la politique actuelle, avec l'horizon des élections présidentielles et législatives, au milieu des complexités du monde, les chrétiens vivent la loi nouvelle des béatitudes.
Un texte à redécouvrir, en effet, et votre autre ouvrage, « Catholique en France, réveillons-nous ». Alors là, il regroupe des textes que vous avez,
des conférences. De ces trois dernières années, que j'ai faites à Angoulême et en d'autres lieux, « Catholique en France, réveillons-nous ».
On est un peu endormi, donc.
C'est un appel. Je crois qu'à travers les difficultés, les épreuves que nous partageons avec bien d'autres qui ne partagent pas notre foi, Dieu nous réveille. Réveillons-nous.
Merci Monseigneur, et j'ose pas vous dire à Pâques prochain, mais puisqu'on est à l'Académie française dans les traditions, alors instaurons cette tradition d'avoir le plaisir de vous recevoir régulièrement. Merci infiniment.